Chapitre 30, égoïsme et égocentrisme. Égocentrique par nature, nous sommes égocentriques et entêtés. Mais en nous approchant du Christ, nous participons à sa nature, et nous vivons de sa vie. Son exemple admirable, la tendresse incomparable avec laquelle il partageait les sentiments des autres, pleurant avec ceux qui pleuraient, se réjouissant avec ceux qui étaient dans la joie, doit avoir une profonde influence sur tous ceux qui le suivent sincèrement. Par des paroles et des actions bienveillantes, ils s'efforceront, à leur tour, d'aplanir le chemin de ceux qui sont fatigués et découragés. L'égoïsme affecte l'intelligence, les désirs égoïstes doivent toujours être tenus en bride. Car si on leur laisse libre cours, ils deviennent un pouvoir souverain qui affecte l'intelligence, qui endurcit le cœur, affaiblit les capacités morales et aboutit à la désillusion. L'homme s'est séparé volontairement de Dieu et s'est laissé asservir par des objectifs dérisoires. Il ne peut être heureux, car il ne peut se respecter lui-même. Il s'est ravalé à ses propres yeux. Sur le plan intellectuel, sa vie s'est soldée par un échec. Naufragé spirituel, l'égoïsme est un manque d'humilité chrétienne. Son existence est un fléau pour le bonheur de l'homme, et cause des troubles de conscience. Ceux qui cultivent ce travers sont voués à faire naufrage quant à la foi. Satan trouble les sens, aujourd'hui comme au temps du Christ, Satan domine l'esprit d'un grand nombre de personnes. Oh ! Si seulement son œuvre terrible et redoutable pouvait être discernée et contrecarrée. L'égoïsme a faussé les principes, troublé les sens et obscurci le jugement. Il est étrange qu'en dépit de toute la lumière qui rayonne de la parole bénie de Dieu, des idées aussi bizarres soient professées, et que l'on assiste à un tel abandon de l'esprit, et de la mise en pratique de la vérité. Le désir de gagner de gros salaires, auquel s'ajoute la volonté délibérée de priver d'autres personnes des droits qu'elles ont reçus de Dieu, s'inspire de l'esprit de Satan. En obéissant à sa volonté et en suivant ses voies, les humains se rangent sous sa bannière. On ne peut guère faire confiance à ceux qui se sont laissés prendre à ses pièges, à moins qu'ils ne se convertissent et ne se réforment entièrement. Car ils ont été égarés par des principes erronés dont ils ne pouvaient mesurer l'influence néfaste. Parlez moins de soi, que votre cœur soit adouci et attendri sous la divine influence du Saint-Esprit. Vous devriez parler moins de vous-même, car cela n'encourage personne. Vous ne devriez pas vous considérer comme le centre du monde ni vous imaginer que vous devez prendre constamment soin de votre personne et demander aux autres de s'occuper de vous. Détachez votre esprit de votre moi, et orientez-le dans une voie plus légitime. Parlez de Jésus, et ne vous occupez pas de votre moi. Qu'il soit submergé en Christ, et que ce soit là le langage de votre cœur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, qui vit en moi. Chaque fois que vous en aurez besoin, Jésus sera votre soutien. Il ne vous laissera pas seul à combattre contre les puissances des ténèbres, loin de là. Il a obtenu le soutien de celui qui peut sauver parfaitement. S'inspirer de l'exemple du Rédempteur, cessez de vous prendre en pitié, et souvenez-vous du Rédempteur du monde. Considérez le sacrifice infini qu'il a consenti en faveur de l'homme et de la déception qu'il a subie après avoir fait un tel sacrifice en constatant que l'homme préfère s'allier avec ceux qui haïssent le Christ et la justice et se joindre à eux pour se laisser aller à ses désirs pervertis, faisant courir son âme à la ruine éternelle. Comment le Seigneur est déshonoré, les périls des derniers jours sont sur nous. Vivre avec le souci de se plaire à soi-même et de chercher sa propre satisfaction, c'est déshonorer le Seigneur. Il ne peut employer à son service ceux qui agissent ainsi, de crainte qu'il n'offre de lui une caricature auprès de ceux qui ignorent la vérité. Dieu peut constater que vous cultivez l'orgueil. Il peut juger utile de vous retirer les avantages dont vous n'avez pas su profiter, trop préoccupé que vous étiez de satisfaire un orgueil égoïste. Danger de la présomption, certains n'acceptent pas de faire preuve de renoncement. Ils manifestent une véritable impatience quand on les presse de prendre certaines responsabilités. Quel besoin avons-nous, disent-ils, de plus d'expérience et de connaissances? Ceci explique tout. Ils disent, Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tandis que le ciel les déclare pauvres, misérables, aveugles et nus. À cela le témoin véritable déclare, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Votre présomption prouve que vous avez besoin de tout. Vous êtes malade spirituellement et vous avez besoin que Jésus soit votre médecin. La vanité égare, il nous est difficile de nous comprendre nous-mêmes, d'avoir une claire vision de notre propre caractère. La parole de Dieu est formelle, mais on commet souvent des erreurs quand il s'agit de se l'appliquer à soi-même. Nous avons tendance à nous tromper nous-mêmes et à penser que ces avertissements et ces reproches ne nous concernent pas. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable, qui peut le connaître? La vanité peut être confondue avec l'émotion et le zèle chrétien. L'amour de soi et la confiance en soi peuvent nous faire croire que nous sommes dans le droit chemin, alors que nous sommes loin de satisfaire les exigences de la parole de Dieu. Une influence désastreuse, l'impression que l'exaltation de soi produit sur le cœur humain est si profonde, le désir de puissance est si fort que pour beaucoup, l'esprit, le cœur et l'âme sont obnubilés par l'idée de commander, de régenter. Rien ne peut faire disparaître cette influence désastreuse sur l'esprit, si ce n'est la recherche du Seigneur pour obtenir de lui le collier du ciel. Seule la puissance de la grâce divine peut faire comprendre à un homme sa véritable condition et réaliser pour lui l'œuvre essentielle qui doit être accomplie dans son cœur. Évitez les extrêmes, conseil adressé à un responsable, si vous vous faites une opinion trop élevée sur vous-même, vous penserez que vos travaux sont d'une importance supérieure à ce qu'ils sont, et vous revendiquerez une indépendance individuelle qui frisera l'arrogance. Si vous penchez vers l'autre extrême et que vous ayez une trop piètre opinion de votre personne, vous vous sentirez diminué et vous donnerez une impression d'infériorité qui limitera considérablement l'influence que vous pouvez exercer pour le bien. Il vous faut donc éviter de tomber dans ces deux extrêmes. Vous ne devez pas vous laisser dominer par vos sentiments, ni être influencé par les circonstances. Vous pouvez vous faire une juste idée de ce que vous êtes, ce qui vous évitera de verser dans l'un ou dans l'autre extrême. Vous pouvez avoir un sens de votre dignité, sans avoir pour autant une confiance indue en vous-même. Vous pouvez vous montrer tolérant et accommodant, sans renoncer au respect de vous-même ou à votre indépendance. Vous exercerez ainsi une profonde influence tant auprès de ceux qui appartiennent aux classes élevées qu'auprès de ceux qui font partie des classes les moins favorisées. Un égocentrisme qui favorise la maladie, message personnel, vous devez déployer des efforts sérieux et vraiment soutenus si vous voulez réussir. En tant que disciple du Christ, vous devez apprendre à maîtriser tout ce qui trahit votre irritation et votre passion. Votre esprit est trop centré sur vous-même. Vous parlez trop de votre personne et de vos maux physiques. Votre style de vie attire quotidiennement sur vous la maladie à cause de vos mauvaises habitudes. L'apôtre Paul engage ses frères à consacrer leur corps à Dieu, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'égocentrisme affecte la perception, autre message personnel, vous pouvez nous aider, mon frère, de bien des manières. Mais je suis chargé de la part du Seigneur de vous dire, ne vous prenez pas pour le centre de toute chose. Prenez garde comment vous écoutez, comment vous comprenez, comment vous vous appropriez la parole de Dieu. Le Seigneur vous bénira si vous vous alignez sur vos frères. Ceux qu'il a envoyé proclamer le message du troisième ange ont travaillé à l'unisson avec les intelligences célestes. Le Seigneur ne vous demande pas de proclamer un message qui amènera la discorde dans les rangs des croyants. Je le répète, il ne conduit personne, par son Saint-Esprit, à construire une théorie qui ébranlera la foi dans les messages solennels que Dieu a chargé son peuple de donner au monde. Inculquez aux enfants l'oubli de soi, qui donne à la vie une grâce naturelle, devrait être tout spécialement apprécié et encouragé chez les enfants. De toutes les qualités du caractère, c'est une des plus grandes, qui prépare particulièrement l'être à une œuvre authentique. La vraie grandeur, il ne suffisait pas aux disciples d'être instruits concernant la nature du royaume. Il leur fallait un changement du cœur qui les mit en accord avec ses principes. Appelant à lui un petit enfant, Jésus le plaça au milieu d'eux, et, le pressant tendrement dans ses bras, il dit, « Si vous ne changez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » La simplicité, l'oubli de soi-même, l'amour confiant d'un petit enfant, telles sont les qualités que le ciel apprécie. Elles constituent la vraie grandeur. Conception erronée de la prière, les païens prétendaient que leur prière possédait une vertu expiatoire. C'est pourquoi, plus la prière était longue, plus elle était méritoire. Si leurs propres efforts avaient pu les conduire à la sainteté, ils auraient eu lieu de se réjouir et de s'enorgueillir. Cette conception de la prière découle du principe erroné de l'expiation personnelle qui se trouve à la base de toutes les fausses religions. Les pharisiens l'avaient adoptée, et il est loin d'avoir disparu de certains milieux qui se disent chrétiens. Répéter des formules, des phrases toutes faites alors que le cœur n'éprouve aucun besoin de Dieu, cela revient à multiplier les vaines paroles des païens. Une vie pleine d'humilité, la vie de Jésus devait être exempte d'orgueil. L'hommage que le monde rend à la position, à la fortune, au talent serait tout à fait étranger au Fils de Dieu. Il n'emploierait aucun moyen humain pour demeurer fidèle ou pour s'imposer. Son renoncement total à lui-même avait été prédit en ces termes, « Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Remède divin, l'homme a tendance à se considérer comme plus excellent que son frère, à travailler pour soi, à rechercher la première place. Ceci engendre fréquemment de mauvais soupçons et de l'amertume. L'ordonnance qui précède la scène du Seigneur a pour but de dissiper ces malentendus, d'arracher l'homme à son égoïsme, de lui inspirer l'humilité du cœur qui le disposera à servir son frère. Celui qui veille du haut des cieux est présent dans ces occasions pour nous aider à sonder nos cœurs, à éprouver la conviction du péché et à obtenir l'heureuse assurance du pardon. Le Christ est là, avec la plénitude de sa grâce, pour donner un cours différent à nos pensées qui suivent habituellement une direction égoïste. Le Saint-Esprit éveille la sensibilité de ceux qui agissent à l'exemple de leur maître. Quand nous nous rappelons l'humiliation du Sauveur, une pensée en évoque une autre, et il se forme une chaîne de souvenirs de la grande bonté de Dieu et de l'affection dévouée de nos amis terrestres. Les bénédictions oubliées, les grâces dont on a abusé, les bienfaits méconnus se présentent à l'esprit. Des racines d'amertume, qui ont banni de nos cœurs la plante précieuse de l'amour, sont mises en évidence. Les défauts de caractère, les devoirs négligés, l'ingratitude envers Dieu, la froideur à l'égard de nos frères, tout cela est rappelé à notre souvenir. Le péché paraît alors tel que Dieu le voit. Nous cessons de nous complaire en nous-mêmes, pour exercer une censure sévère envers nous, et nous humilier. Nous avons la force de briser toutes les barrières qui se sont élevées contre les frères. Les mauvaises pensées et les médisances sont rejetées. Les péchés sont confessés et pardonnés. La grâce conquérante du Christ entre dans l'âme, et l'amour du Christ resserre les cœurs dans une heureuse unité.